Audiolib présente La Belle et la Bête, histoire éternelle, de Jennifer Donnelly, lue par Manon Azem. À toutes celles et ceux qui veulent écrire leur propre histoire. Prologue. Il était une fois, dans un très vieux palais en ruine, deux sœurs, l'amour et la mort, qui disputaient une partie d'échecs. La mort était la maîtresse des lieux. Aucun mortel ayant franchi le portail rouillé de son domaine n'en était revenu. Le teint livide, les cheveux pareils à une nuit sans lune, elle portait une longue robe noire, rehaussée par un collier de griffes, de cerfs et de crocs. Les paupières plissées, sur ses yeux d'émeraude, elle scrutait l'échiquier. « À vous de jouer, ma chère !» lui souffla l'amour.
« Je le sais !» lui rétorqua la mort.
« Ce n'est pas que je m'impatiente, mais... »«
Souhaitez-vous vraiment que la mort se hâte ?»
L'amour se leva de son siège en poussant un soupir. Ses yeux avaient la même teinte profonde que ceux de sa sœur. Ses cheveux, en revanche, étaient d'un blond argenté. Quant au hâle de sa peau, il offrait un contraste saisissant avec la blancheur immaculée de sa longue robe. Pour toute parure, elle arborait un collier de brindilles de saule entrelacées, brindilles auxquelles s'accrochaient comme autant de joyaux vivants des scarabées scintillants, des papillons chamarrés, ainsi que de ténébreuses araignées. Un miroir en pied, orné d'un cadre argenté piqueté de ternissures, s'appuyait contre un mur de la salle. L'amour passa une main devant la glace et une image apparut. Une salle à manger autrefois grandiose, à présent tombée en décrépitude. Par ses fenêtres à meneaux, on voyait des flocons de neige. Une créature tourmentée, mi-homme, mi-bête, faisait les 100 pas. Son regard, presque implorant, revenait sans cesse vers la porte. Un regard féroce en apparence, mais qui, à bien l'observer, se révélait hanté. Tournant la tête vers le miroir, la mort interrogea sa sœur d'une voix condescendante.
« Votre bête s'acharne-t-elle toujours à détruire le mobilier, la vaisselle et les fenêtres ?»«
Je ressens de l'espoir à son endroit, » lui répondit l'amour en caressant le miroir. « Pour la première fois !»«
Je me demande bien pourquoi. Une bête ne saurait être qu'une bête. »
Vous recherchez toujours le pire en chaque être.
Et je ne manque jamais de le trouver.
À nouveau concentré sur l'échiquier, la mort plissa le front et se mit à tambouriner des doigts sur la table. Un bref regard sournois adressé à sa sœur et elle tapotait son cavalier.
Pauvre petit pion, quel dommage, ironisa-t-elle.
Les pièces du jeu représentaient des courtisans masqués. Le cavalier avait ainsi le visage dissimulé par un casque en fer. Le pauvre pion, lui, incarnait Arlequin, et ses figures de porcelaine étaient vivantes. Le cavalier se déplaça. Le pion leva les mains en l'air, implorant la pitié de son adversaire qui, imperturbable, lui trancha la tête d'un coup d'épée. Des éclats de porcelaine volèrent. Les paupières du pion battaient encore quand son crâne cessa de rouler. L'amour tourna la tête au bruit de la porcelaine brisée. La colère embrasa le regard qu'elle porta sur l'échiquier. « Vous avez triché, ma sœur !» s'indigna-t-elle. « Ce cavalier ne menaçait pas mon pion !»«
Triché ? Moi ?» mentit la mort, une main sur la poitrine. « Vous n'y songez pas. »
« C'est ma faute. » Je n'aurais jamais dû quitter des yeux l'échiquier. Vous avez la défaite en horreur. » La mort se renversa contre le dossier de son fauteuil, entortilla son collier entre ses doigts et s'efforça de garder son sérieux. Le temps que sa sœur joue à son tour, elle inspectait la salle. Des bois de renne trônaient au-dessus du manteau en pierre de la cheminée. Les murs étaient parés de têtes de sangliers et de loups, dans les yeux desquels danser les reflets des flammes.
Un mouvement soudain dans la glace du miroir capta l'attention de la mort. L'image montrait à présent une bibliothèque somptueuse dans laquelle se tenait une jeune femme. À sa robe bleue toute simple, on devinait qu'il s'agissait d'une villageoise. Ses épaisses tresses foncées étaient nouées par un ruban. Ses yeux marrons pétillaient d'humour, d'intelligence et de chaleur. Le regard de la mort se braqua sur la jeune femme, comme le regard du lion à la vue d'une gazelle. « Belle, » murmura-t-elle, « tu portes bien ton prénom. » Entendant ces mots, l'amour s'intéressa elle aussi au miroir. « Vous connaissez cette personne ? » s'étonna-t-elle.
« Tout à fait, et depuis sa plus tendre enfance. »
Les deux sœurs virent alors Belle prendre un volume sur une étagère et le montrer à la bête en souriant. La bête plissa les yeux pour tenter de déchiffrer le titre. Belle ouvrit l'ouvrage et lut la première page. La tête penchée, elle ne remarqua pas que la tristesse quittait le regard de la bête, remplacée par le bonheur. L'amour s'apprêtait à déplacer une pièce du jeu quand elle déclara : « Cette fille va réussir. Vous pouvez me croire. Elle a du courage, de la détermination. Je l'estime encore plus entêtée que la bête. Et elle possède un cœur d'or. »
Certes, mais ce n'est pas de son cœur à elle qu'il est question, si je ne m'abuse,
persifla la mort. C'est à peine si sa sœur, concentrée sur ce qu'elle regardait, entendit la pique. Elle ne vit pas non plus le scarabée qui décolla de son collier pour aller se poser sur le miroir.
Le cœur de la bête. Voilà ce qui nous intéresse, poursuivit la mort. Auriez-vous oublié son comportement lorsqu'il était encore prince? Le jour même où il fut ensorcelé, il s'était acheté un nouveau carrosse en piochant dans le tronc de l'église. Il se moquait du bégaiement d'un commis de cuisine et il massacrait un cerf à la chasse. Ce misérable, je l'aurais bien changé en asticot afin de l'écraser sous mon talon. Mais vous avez refusé. Cela me dépasse.
Il mérite une seconde chance, affirma l'amour. Tout le monde mérite une seconde chance. Mon enchanteresse a transformé son aspect extérieur afin de transformer sa personnalité intérieure. Cette souffrance lui enseignera la bonté et la compassion. Il retrouvera son cœur.
Mais il n'a pas de cœur, voyons, ma sœur, s'exaspéra la mort. On ne peut retrouver ce qui n'a jamais existé.
Vous vous trompez, lui rétorqua l'amour. Je l'observe depuis son plus jeune âge. J'ai vu ce qu'il a enduré, ce que son père lui a fait subir. Comment il a été contraint de dissimuler son cœur. Autrement, il n'aurait pu survivre.
La mort chassa cette idée d'un geste de la main, mais l'amour insista.
Avez-vous déjà assisté à un de ces combats organisés par les villageois, lors desquels un ours affronte une meute de chiens? Avez-vous vu comme le colosse gronde et joue des mâchoires? La souffrance et la peur peuvent métamorphoser les gens ou les animaux. La bête peut changer.
Qu'elle change vite, en ce cas. Votre rose fait peine à voir,
déclara la mort en désignant le miroir. La glace montrait à présent une table dans une salle du château de la bête. Une rose rouge suspendue sous une cloche de verre. Sa tête s'inclinait déjà. Quelques pétales fanés gisaient en dessous. La mort et l'amour virent même un nouveau pétale se décrocher.
Si la bête n'a pas réussi à conquérir l'amour de Belle quand le dernier pétale tombera, elle devra demeurer une bête à tout jamais, rappela la mort. Vous avez fait un pari, ma chère sœur. Vous avez parié sur le cœur d'un être humain. Quelle folie! Pour ma part, je suis prête à parier 1 million de louis d'or que la bête échouera.
1 million de pièces d'or ? Répéta l'amour en relevant un sourcil. Vous devez être bien riche pour vous permettre de perdre une telle somme. À ces mots, elle se pencha de nouveau sur l'échiquier. Un sourire condescendant aux lèvres, la mort lui répondit avec une compassion toute feinte.
Je comprends. Vous refusez de suivre. La somme est trop importante. Vous craignez,
je ne crains rien du tout. Et vous encore moins. J'enchéris à 2 millions. Le regard de la mort s'illumina. Elle n'aimait rien tant que parier. La veille encore, elle avait surpris une jeune baronne à cheval qui fanfaronnait. « Je parie que je peux franchir cette barrière !» Et un garçon de ferme qui se vantait de pouvoir traverser à la nage telle rivière. Mais c'est bien la mort qui avait gagné ses paris. L'amour aussi était friande de ses jeux. Plus la mise était élevée, plus les risques étaient gros, plus elle enchérissait.
« Cet or m'appartient déjà, » pronostiqua la mort. « Les humains sont des créatures égoïstes qui passent leur vie à commettre des erreurs. Voulez-vous connaître la fin de l'histoire ? La bête se montre immonde, Belle l'abandonne, le dernier pétale tombe. »
Redressant fièrement le menton, l'amour ne se laissa pas impressionner. « Vous ne pouvez connaître la fin de l'histoire. Vous n'en êtes pas l'auteur. Il arrive parfois que la bonté et la gentillesse triomphent.
Et ces fois-là, les licornes galopent sur les arcs-en-ciel.
Ricana la mort. 3 millions, enchérit l'amour en la foudroyant du regard.
Pari tenu. Et c'est moi qui vais gagner, ma bien chère sœur. Vous verrez.
Pour ce qui est de notre partie d'échecs, en revanche, vous avez perdu, affirma l'amour en déplaçant sa reine de quelques cases. Échec et mat. Le sourire de la mort s'effaça aussitôt. La reine de l'amour se tenait devant son roi.
« Comment ? » s'étrangla-t-elle. « C'est impossible !»
Là, sous le regard des deux sœurs, la reine offrit un baiser au roi. Surpris par ce geste de tendre magnanimité, ce dernier serra son adversaire contre sa poitrine. L'instant d'après, il s'écroulait sur l'échiquier, un poignard fiché dans le dos.
« Et c'est moi que l'on dit sans pitié !» faillit s'étouffer la mort.
L'amour se leva de son fauteuil avec un sourire triomphal. Elle déposa un baiser sur la joue froide de sa sœur avant de déclarer « Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. » La mort resta immobile, un regard assassin rivé aux pièces de porcelaine. Son fou se mit à trembler. La peinture se fissura sur ses traits. Furieuse, la mort balaya soudain l'échiquier d'un geste ample. Les pièces se brisèrent sur les dalles de pierre. Après quoi, la mort se leva. Elle s'approcha du miroir. La moue encore aux lèvres, elle observait Belle et la bête qui lisaient, ravie d'être ensemble.
La fille avait peur de lui dans un premier temps, nota la mort. On peut la comprendre, mais ce n'est plus le cas. Cet enfant est un être comme il en existe peu. Elle voit avec son cœur. Ma sœur a raison. Elle a une chance de réussir. Cela est hors de question.
Pivotant sur ses talons dans un froissement de tissu menaçant, la mort alla ouvrir un placard à l'autre bout de la pièce. À l'intérieur, des livres dont elle caressa le dos du bout du doigt.
« Te voilà !» souffla-t-elle en s'emparant d'un ouvrage.
Relié de cuir noir, celui-ci était très ancien et couvert de poussière. Son titre demeurait toutefois visible malgré les craquelures.
Nevermore.
Mouchard ! Truqué !
Aboya la mort. Deux vautours quittèrent leur perchoir situé au-dessus du manteau de la cheminée pour se porter devant leur maîtresse. Deux énormes volatiles, au plumage noir et au bec cruel. Il y en avait une dizaine d'autres perchés ailleurs dans la salle.
Prenez ce livre et allez le ranger dans la bibliothèque de la bête, ordonna la mort, en veillant bien à ce que personne ne vous voie.
Un des vautours émit un cri strident.
Non, mouchard, petit insolent, ce n'est pas de la triche, s'emporta la mort. Une petite astuce, tout au plus. Tu crois peut-être que ma sœur n'en fera pas autant?
C'est bien mal la connaître. Sous ses dehors délicats et précieux, elle est féroce. Une sauvage au visage d'ange. Elle ne reculera devant rien pour gagner le pari.
L'autre vautour cria à son tour. Puis il secoua la tête, agita ses ailes. Les joues pâles de la mort s'empourprèrent d'indignation.
« Je connais parfaitement les règles, truquées. Je sais que je n'ai pas le droit d'aller trouver la fille avant que son heure soit venue.
Mais... en admettant que ce soit elle qui vienne à moi, Cela change tout, n'est-ce pas ?
Le charognard soupesa les paroles de sa maîtresse, puis inclina la tête et saisit le livre entre ses serres. La mort ouvrit alors une fenêtre, et les deux volatiles s'envolèrent dans la nuit. Les regardant s'éloigner, elle réentendit les mots de sa sœur. « Vous ne pouvez pas connaître la fin de l'histoire. » Ses lèvres rouges sang se déformèrent en un sourire sinistre, plein de détermination.
« Oh que si, je peux la connaître, »
roucoula-t-elle,
« car je compte bien l'écrire. »
Chapitre 1. Belle attendait devant les portes de la bibliothèque, un balai dans une main, un seau dans l'autre, un large sourire aux lèvres. À ses pieds, plusieurs objets attendaient eux aussi. Un candélabre doré, en forme de bonhomme, une petite pendule en bronze, une théière en porcelaine, une tasse à thé ébréchée, un plumeau dont le manche représentait un paon, enfin, un tabouret à fanfreluche. Le candélabre prit la parole.
Ma chère mademoiselle, on dirait que vous partez en guerre avec votre balai en guise d'épée.
Lui-même avait des bougies allumées en guise de main et il en brandissait une comme pour provoquer Belle en duel. Je vais me battre, en effet, lumière, confirma Belle. Et vous aussi d'ailleurs, vous n'avez pas idée de ce qui nous attend derrière ces portes.
Détrompez-vous,
grimaça lumière.
Le maître est pétri de qualité, mais l'ordre n'en fait pas partie.
Boliverne !
Intervint la pendule en s'approchant des grands bâtons en bois.
Vous oubliez que j'ai accompagné le comte de Rochambeau lors du siège de Yorktown !
Du tout, mon ami, se récria Lumière en roulant les yeux.
Nous avons littéralement laminé les rouges ! Ce ne sont pas quelques toiles d'araignée qui vont me faire peur !
Claironna Big Ben. Sur ce, il poussa les portes qui s'ouvrirent en grinçant. Et Big Ben cessa immédiatement de tempêter. Il fit 3 pas dans la pièce caverneuse. Les autres domestiques l'imitèrent. Tous contemplaient avec horreur le spectacle qui s'offrait à eux. Tous, sauf Belle.